With TV, you can't even think of something different. With movie,
da un po' di
you
tempo
can.
Sento dentro di me una strana agitazione.
Une petite méduscience.
Michel, le plus parlé de qui elle est Qui elle est Boss Donc, pas celui qui est
d'équipe Sous, mais t'as quoi, hein
D'équipe
Qui est que bien mis t'amni Pourquoi ils sont bons
Bonjour à toutes et à tous, on est dans le cadre de ce 19e Festival International du Documentaire de Marseille, dans les coulisses de la Criée, où nous rencontrons Christophe Gargaud, le réalisateur du film intitulé « D'Arusha à Arusha ». Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors c'est une rencontre avant film. Bonjour. On va savoir qu'en salle, on n'est pas trop loquace avant un film, mais là on va peut-être essayer de... Pour stimuler un peu les esprits en direction de ce documentaire, essayer d'aborder les grands thèmes que ton film traite. C'est un travail que tu as entamé en mars 2005 et qui est tout juste terminé, puisque tu rentres de montage et de mixage. Hein, donc ça s'est terminé en juin, le mois dernier. Peut-être peut-on... D'abord aborder de façon assez large le thème de ce film. On s'était rencontrés il y a un an, alors que tu proposais un work in progress, dans le cadre d'un work in progress, quelques minutes de rush, une quarantaine de minutes, et un petit peu un état de travail de ton film. À l'époque, tu expliquais que tu étais parti sur un travail transversal sur la justice pénale internationale, qui pouvait commencer avec les procès... d'après Seconde Guerre mondiale, et puis que ton entrée dans cette thématique était le cas rwandais et le tribunal qui se tient à Arusha, en Tanzanie. Qu'en est-il, un an après ce Work in Progress, et puis 3 ans après le début de l'écriture de ce film?
Alors, le film, effectivement, avait l'ambition d'être comme ça, comme une continuité qui partait de Nuremberg, et puis qui passait par le TPIR, et puis qui, au final, nous éclairer plus largement sur la justice internationale au sens le plus large du terme, avec la Cour pénale internationale maintenant. Après le voyage, je fais un film qui est beaucoup plus recentré sur le tribunal pénal international pour le Rwanda, et où l'évocation de Nuremberg n'existe plus, ou si ce n'est dans le titre, puisque d'Arusha à Arusha fait écho à un autre film,
de Nuremberg à Nuremberg.
Mais c'est la seule référence historique au fond que j'ai conservée. Et puis pour ce qui est de sa mise en perspective en évoquant la Cour pénale internationale, là c'est pareil, je laisse au fait au spectateur le soin d'imaginer lui-même la perspective au travers le cas du tribunal pénal international pour le Rwanda. Ça c'est par rapport à l'année dernière. Alors, quel est le thème du film ? La justice pénale internationale réémerge dans les années 1993 et 1994, d'abord avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPY, qui était basé à La Haye, chargé de juger les crimes commis en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Serbie, et puis avec un peu plus tard le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui est créé en novembre 1994 suite au génocide qui s'est déroulé d'avril à début juillet 1994. Mais ces deux tribunaux remettent en lumière une justice qui avait disparu pendant 50 ans, puisqu'après Nuremberg, et la guerre froide, la justice internationale, cette grande ambition va totalement disparaître, et il faudra la chute du mur de Berlin pour qu'à nouveau toutes les courants philosophiques des droits de l'homme fassent réémerger l'idée d'une justice internationale qui va devenir concrète avec le TPIR et le TPY. Voilà. Et le film en fait s'intéresse donc à cette justice qui à l'époque reposait une immense espérance, c'est-à-dire imaginer une autre réponse que la loi du talion ou l'impunité en réponse à des crimes de masse, et en même temps que elle permettait de se poser des questions sur la place des droits de l'homme, l'articulation entre droits de l'homme et politique, l'articulation entre justice universelle, entre universel et puis une vision plus locale des événements. Et ce qui s'est passé, c'est que le tribunal pénal international pour le Rwanda, arrivant bientôt au terme de son mandat, puisqu'il est censé officiellement terminer cette activité en décembre 2008, il m'est apparu intéressant de faire un film qui le prenait un peu comme en prenant le TPIR comme terrain d'expérience, de regarder quel enseignement on pouvait tirer après presque 12 ans d'activité.
Très bien, on va essayer de passer donc de cette échelle internationale à une échelle plus nationale. On traverse nous-mêmes en ce moment dans le pays qu'on appelle France une drôle d'époque où on est un peu dans la victimisation à tout craint. La loi travaille beaucoup dans ce sens-là et soit victime et tais-toi quelque part. On est un peu dans ce flot-là et donc je voudrais te demander peut-être comment s'organise dans le cadre de ce tribunal pénal international pour le Rwanda la relation entre victime et génocidaire.
Il est clair que le Rwanda inaugure ne change pas la tendance de fond dans laquelle par laquelle la dimension victimaire devient quasiment centrale à tous les registres. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre au titre un peu provocateur de la concurrence des victimes. Donc le Rwanda n'échappe absolument pas à ça. Et aujourd'hui, être rescapé au Rwanda est un statut tout à fait particulier. C'est un statut intouchable. Donc il y a... il y a presque une capitalisation sur ce statut-là, qui peut paraître cynique, mais c'est une réalité. Et le niveau de culpabilité de la communauté internationale est tel vis-à-vis du Rwanda, puisqu'elle a décarpi au tout début des événements, faisant en sorte qu'elle n'a rien empêché du tout, elle ne pourra pas faire autre chose au fond que de renforcer ce statut de victime par sa propre culpabilité. Donc et puis ensuite elle pourra de par cette faillite aussi d'autant moins je dirais pas donner une leçon, mais en tout cas aider le Rwanda à peut-être appréhender son histoire de manière différente. La communauté internationale n'a rien à dire au Rwanda puisqu'elle est coupable de faillite. Donc on est dans une culture totale de la victime, culture totale de la victime qui est renforcée par le fait que le Rwanda est lui-même engagé dans un processus de justice qu'on appelle les Gacaca, qui est complémentaire au tribunal pénal international mais totalement indépendant. Donc par cette justice propre au Rwanda, et bien la question du drame est permanente puisqu'elle est constamment évoquée. Donc à ce jour, le Rwanda n'est pas encore pris dans un processus de réconciliation. Il est encore en train de juger son histoire ou de juger les acteurs de cette histoire.
Mais est-ce que ces Gacaca, justement au niveau local, sont porteurs de cet espoir de réconciliation ou de cet enjeu-là, puisque on va être effectivement dans un cas où une justice rendue d'assez loin, on voit difficilement comment au niveau local on peut revivre entre voisins ou entre mari et femme, entre génocidaires d'hier, aujourd'hui, enfin condamnés d'aujourd'hui.
Les Gacaca, en fait, ont longtemps été présentés comme une justice dite de réconciliation. En fait, elle s'inscrivait dans la continuité de l'expérience d'Afrique du Sud, où il y avait la fameuse commission vérité. Et donc, de cette expérience-là, des justices dites transitionnelles, dites de réconciliation, commencent à émerger. Et pendant un certain temps, on a pensé que les gachacha s'inscrivaient dans ce modèle-là. Maintenant, on peut affirmer que ce n'est pas du tout le cas. Les gachacha, qui renvoient une justice dite traditionnelle au Rwanda, qui est le règlement des conflits par la palabre, n'a gardé que le nom, puisqu'aujourd'hui il s'agit d'un système pénal où le régime accusatoire est absolument dominant et où la présence d'avocats n'existe pas. Donc on est dans une justice qui plaide à charge et qui condamne lourdement, puisqu'elle condamne des gens à des peines de 25 à 30 ans. Donc on n'est pas du tout dans un esprit de réconciliation, on est dans condamnons ceux qui ont commis des crimes. Mais il est vrai que pendant un certain temps, ça a été présenté comme ça et des gens pensent encore que c'est ça.
Et ça a peut-être effectivement été pour d'autres cas où on cherchait, dans le cadre d'un conflit agraire ou quoi, une équité, une façon de pouvoir vivre ensemble après en ayant un système de compensation.
La gachacha existe encore au Rwanda. Hein. C'est quand vous avez un conflit avec vos voisins ou pour quel que soit le sujet, vous faites gachacha, c'est-à-dire que vous vous réunissez et vous évoquez ça. Mais là, ça existe, c'est une pratique culturelle qui existe, mais le système des gachacha, c'est-à-dire celle qui juge les acteurs qui ont participé au génocide, elle ne correspond plus du tout à ça. Il ne s'agit pas d'un travail d'explication entre les gens. Il s'agit de poser une condamnation par rapport à des gens qui sont présumés coupables d'y avoir participé. Devant une gachacha, vous pouvez... moi, je connais une femme... qui vient décoper de 10 ans de condamnation, dont 5 ans d'emprisonnement, plus 5 ans de travaux d'intérêt général, oui, au motif qu'elle n'avait pas porté assistance à un bébé en danger pendant le génocide. On n'est pas ici dans la réconciliation, on est dans...
Le jugement à tout craint.
Dans la présomption de culpabilité à tout craint, et voire, dans certains cas, dans une forme de vengeance déguisée.
C'est sûr. Dans ce va-et-vient qu'on essaie de faire autour de ton film d'Arusha à Arusha, de l'international au national, au local, peut-être est-ce qu'on peut aborder la question des limites politiques dans lesquelles se tient ces tribunaux.
Les tribunaux internationaux doivent toujours s'observer par rapport au mandat qui est le leur. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a un mandat par lequel il est censé poursuivre tous les acteurs soupçonnés de violation du droit humanitaire entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, sachant que le génocide, lui, se déroule de début avril jusqu'à tout début juillet. Donc c'est une période plus large que celle du génocide. La raison en est qu'au moment du conflit, il y a eu plusieurs type de violation du droit humanitaire au Rwanda. Il y a eu, bien évidemment, le génocide commis à l'encontre des Tutsis. Ça c'est une des violations humanitaires. Génocide et crimes contre l'humanité. Hein. Et puis, il y a eu les crimes commis contre des Hutus dits modérés, mais qui en fait étaient les Hutus démocrates, non extrémistes, on va dire. Et puis il y avait aussi les crimes commis, notamment les crimes de guerre, qui ont été commis par le mouvement rebelle du FPR, qui, attaquant le Rwanda depuis 1990, a lui aussi commis des violations du droit humanitaire. Mais comme c'est ce Front Patriotique Rwandais qui va, au fait, mettre fin au génocide en arrivant à conquérir Kigali, il va non seulement gagner la guerre, et ensuite ne permettra jamais au tribunal pénal international pour le Rwanda de poursuivre les crimes commis par ses membres. Et donc, ce faisant, le tribunal pénal international pour le Rwanda va pouvoir exercer qu'une partie de son mandat. Mais ce faisant, il va très vite être considéré comme un tribunal qui n'est pas équitable, puisqu'au fond, à en voir le résultat de ses activités, seule une partie des acteurs rwandais sont condamnables. Ça peut avoir des conséquences relativement graves. En tout cas, ça en a déjà une qui est intéressante, c'est de découvrir que c'est une justice qu'on qualifie toujours de justice de vainqueur depuis Nuremberg. C'est une formule qui est certes percutante, mais elle n'est pas forcément pertinente. Puisque, en fait, pour juger, il faut bien nécessairement vaincre. C'est Todorov qui dit ça. Il dit pour juger, il faut vaincre. Karadzic et Mladic n'ont pas été vaincus, ils n'ont pas été jugés. Donc la question, ce n'est pas de savoir si c'est une justice de vainqueur, c'est comment les puissants exercent leur puissance. Or, en exécutant pas pleinement son mandat, eh bien, le TPIR a consacré un vainqueur, le Front Patriotique Rwandais, et a consacré des vaincus, d'une part les Hutus bien sûr, mais aussi la communauté internationale d'une certaine manière, puisque la communauté internationale, qui est quand même une faillite en 94, n'est pas parvenue d'une certaine manière à redorer son blason en jugeant équitablement. Au contraire, elle a jugé faiblement. Or, la justice internationale ne peut s'émanciper que si, pour exercer pleinement son rôle, elle doit pouvoir s'émanciper de sa charge, qui est très impressionnante. Et ça, à Nuremberg, ça avait déjà été posé. C'est-à-dire que, à partir du moment où on prend le risque de juger, on prend aussi le risque, un, de ne pas bien juger, mais aussi de laisser la place au doute, c'est-à-dire de l'incapacité de juger. Ne faisant pas ça, ou ne pouvant pas le faire, ou n'osant pas le faire, elle s'est un peu recroquevillée sur un orgueil un peu frileux, et là c'est un héritage bizarre, c'est-à-dire une justice de vaincu.
Pour en savoir plus sur ces questions de justice pénale internationale, et en particulier sur le cas donc du tribunal pénal international pour le Rwanda, on peut que vous motiver à aller voir Darusha à Arusha, le film de Christophe Gargaud, que je remercie. La première diffusion aura lieu ce vendredi 4 juillet à 17h au Théâtre National de la Criée, et puis une autre diffusion à 15h30 le samedi 5 juillet au cinéma Les Variétés. Christophe Gargaud, merci et bonne projection.
Merci beaucoup.
With TV, you can't even think of something different. With movie, you can.
Sento dentro di me una strana agitazione.
Une
petite méditation. Tu chiales plus parler de qui elle est. Qui elle est-il? Bon. Donc, pas celui qui est
d'acquis. Oh, c'est pas toi.
D'acquis.
Qui est-ce que bien mi tamni? Pourquoi ils sont bons?